pour y aller. Donc, c'est Thomas Flau qui va mener la discussion, qui est passé par le même institut littéraire que Antoine Fouchinet, par l'Institut Pierre Deslièvres.
Et dans le premier roman, parle d'une catastrophe nucléaire.
Donc, ah, ça
joyeusement. Hein. Oui, merci à tous. Je félicite d'abord Antoinette et cette comédienne dont malheureusement je ne me souviens plus du prénom.
Mais... c'est Stéphanie Barbarou et puis Christelle Boisanté.
Alors bravo à vous, c'était magnifique. Même si je pense que pour beaucoup de personnes, on n'a pas besoin de te présenter ce soir, je vais quand même un tout petit peu te présenter. Donc, tu es né en 1979, comme Yvon vient de le dire, tu as fait l'Institut littéraire Suisse de Vienne, mais ce n'est pas si important que ça. Au fond, c'est plutôt tes livres, ton œuvre, une dizaine de livres. En tout cas, je crois que Après le monde est ton dixième livre. Tu as écrit des récits, tu as écrit des romans, mais tu as aussi peut-être surtout d'abord écrit pour le théâtre.
Oui.
Et depuis quelques années, je dirais que ton travail littéraire, ton travail de dramaturge, de romancière, est inquiet de l'avenir. Puisque nous sommes à l'ABC, on peut citer Frost, qui a été monté ici, enfin au Temple allemand, un peu plus au-dessus, en 2014, on y reviendra peut-être. Ça m'était déjà d'une certaine façon... La fin du monde, on y reviendra. On peut également citer une autre pièce de théâtre qui a été mise en scène par Maya Bosch l'an dernier à Vidi et qui forme d'une certaine façon un diptyque ou un autre volet politique de ton travail avec Après le monde. Oui, mais soit on va parler d'après le monde, donc le dernier roman d'Antoinette Richner, publié aux éditions Buchet-Chastel, et comme la lecture l'a déjà donné à entendre, ce roman est constitué de deux fils qui s'entrecroisent. Tu parles aussi de strates. Tout d'abord, les chants d'un poème racontant la vie après la catastrophe, ou se souvenant de ce à quoi la vie ressemblait avant cette catastrophe. Et puis, une autre strate que tu prenais en charge ce soir en tant que lectrice, qui est un récit choral qui saisit tour à tour les moments de la vie de nombreux personnages féminins, donc prenant à chaque fois, se focalisant sur un point de vue différent, un différent point de vue de cette vie d'après la catastrophe. Donc voilà pour le contenant, maintenant le contenu. Le roman, il se déroule dans un futur proche, ça commence en très très proche, ce qui est en particulier en glaçant, je dois dire. Donc de 2022 à 2049, c'est juste. Alors la décennie 2020, dans laquelle on vient d'entrer avec beaucoup de joie, elle est celle de l'effondrement. Donc soyez au courant. Celle de 2030, heureusement, est celle de la reconstruction. Je ne dévoile pas la fin, mais ça repart en sucette après. Dans la lecture, tu exposais cet effondrement du système capitaliste mondialisé reposant sur l'extraction gratuite et illimitée d'énergie fossile et d'autres ressources qui conduit à l'effondrement de l'ensemble des réseaux sur lesquels repose notre société. Donc, qui conduit à un chaos généralisé dans lequel émergent des régimes autoritaires, racistes, dont l'avatar en Suisse est le régime des 10 frères Zedvet. Réjouissant. À ce moment-là, la population mondiale diminue drastiquement et à partir de là, des sociétés se reforment et tu racontes leur reformation d'une certaine façon. De nouveau, contrats sociaux s'inventent, des nouvelles sociétés que tu donnes à lire à travers le point de vue de ces personnages féminins dont je parle. Donc ma question, première question, elle serait celle-ci. C'est-à-dire, écrire ce roman, est-ce que c'était d'abord le pari d'explorer par les moyens propres de la littérature, de la fiction, comment une société peut se reconstituer à partir de ce cataclysme-là, qui est d'une certaine façon une forme de table rase.
Oui, j'ai la réponse. Oui, c'est tout à fait une forme exploratoire, en tout cas, d'écrire. Je pense que c'est assez différent quand même ce qui s'est passé sur le plan des champs et ce qui s'est passé sur le plan des chapitres. Pour moi, assez vite, il y avait l'idée que les champs, c'était le lieu où j'allais un peu drainer tout ce qui était documentaire, informatif, une espèce de contexte global où j'allais beaucoup mettre d'informations. Donc là, c'était pas tellement l'exploration, la découverte, c'était plutôt comment faire pour tout balancer sans que ça reste digeste, quoi. Mm-hmm. Et puis, les chapitres, par contre, c'était clairement l'exploration. Je pense que dès qu'on entre, en tout cas pour moi, dès que j'entre dans un travail de fiction, c'est un peu comme un paysage sous le brouillard, avec un relief sous le brouillard. Il y a seulement certaines parties qui émergent, puis d'autres qui sont invisibles, et puis moi je dois dégager pour pouvoir retrouver l'entier. Donc typiquement, la scène, une des scènes finales qui réunit en fait les deux héroïnes dont on a suivi le parcours, dans une petite cabane en Finlande, ça, je l'avais presque depuis le début, cette scène, très précisément. Mais en fait, c'est comme si j'avais dû inventer un peu tout le reste pour en arriver là, à la fin, par exemple. Et puis, c'était difficile de trouver qui étaient ces personnages, vraiment, etc., qu'est-ce qu'ils allaient vivre. Et surtout, je pense que c'était difficile de trouver la question du point de vue, en fait. Grande question pour la littérature. En plus, moi, je n'ai pas vraiment expérimenté là-dedans, parce que mon premier roman, c'est un point de vue jeune, il n'y a que du jeune, donc voilà. Et puis, au théâtre, la distribution, elle indique qui parle. Mais presque tous mes récits, en fait, c'est soit un narrateur ou une narratrice, ou alors j'ai écrit aussi Lettre au chat, c'est épistolaire, mais en fait chaque lettre elle est signée, donc en fait, ça pose pas vraiment le même problème que dans le roman.
Puis en plus elle est adressée.
Elle est adressée, donc on sait tout de suite à qui, de qui, donc en fait il n'y a pas du tout ce problème. Donc moi je me sentais assez démunie, me frotter à ça c'était technique pour moi. J'ai lu plein de choses classiques, contemporaines, en essayant d'expliquer comment c'était fait. Après j'ai fait des essais, des chapitres où il y avait plusieurs, on passait de plein de points de vue différents. Ouais. Et puis à ce moment-là, j'ai discuté avec Daniel de Roulet.
Avec qui tu faisais un mentorat.
Je faisais un mentorat au départ, et puis il m'a dit tu peux en fait faire des sauts de points de vue, mais sache que si c'est dans le même chapitre, c'est très très difficile pour le lecteur ou la lectrice de suivre. Donc je te conseille, entre amis, de faire un truc très simple, tu fais un chapitre, un point de vue, et puis comme ça, c'est fait. Et puis au début, j'ai dit non, mais c'est bon. Et voilà, enfin après, c'est pas non plus un jeu à chaque fois, c'est quand même la troisième personne.
Oui, c'est ça.
Puis c'est un point de vue un peu déviant, dans le sens qu'il tout d'un coup, il devient un narrateur omniscient, mais c'est un peu les deux à la fois.
Oui, c'est ça, un narrateur omniscient, mais toujours avec une focalisation. En tout cas sur le regard d'un personnage qui, et c'est assez particulier, puisqu'on n'a pas simplement, c'est pas pour donner un petit peu l'idée de ce texte, hein, ce serait pas une galerie de personnages, un en Argentine, un en Finlande, un en Afrique du Sud, qui n'auraient rien à voir les uns entre les autres. En tout cas, ces personnages rencontrent au moins une fois, parfois même en pensée, les deux personnages qui sont des personnages centraux de ton texte, qui sont les deux autrices. Avec qui vous avez pu faire connaissance tout à l'heure, les autrices de ces chants qui sont Christelle et Barbara.
Pardon, j'allais dire
Stéphanie. Et je crois que cette. Parce que j'ai parlé de récits de romans chorales, donc là j'avais en effet plutôt faux, parce qu'un roman choral ce serait une succession, une sorte d'addition de jeux, comme ça. Là on a cette multiplicité de parcours que tu donnes à lire et qui donne à chaque fois des points de vue différents sur ce qu'est la vie dans ce monde qui est après le nôtre, après celui que nous connaissons, je crois tout à fait à voir avec la nature des chants qui sont écrits eux-mêmes à la première personne du pluriel, c'est ça, nous, bien sûr. Oui, alors pourquoi d'abord, par quoi tu as commencé par écrire ces chants, par constituer ce qui est plutôt le corps narratif du roman, c'est-à-dire ces récits de vie de femmes après la catastrophe. Donc voilà, commencer par les chants ou par les...
Plutôt par les chants, ouais. Mais sauf les deux derniers. Mais avant même d'écrire les chants, j'ai déjà écrit toute une sorte de scénario géopolitique à l'échelle planétaire. Ouais. Bah déjà pour avoir l'univers dans lequel j'avais inscrit mes événements chronologiques, et puis aussi après j'ai pu presque directement l'utiliser pour les chants en fait.
Ouais.
Enfin en le remplaçant au nous et puis tout ça, mais c'était quand même déjà une matière qui racontait tout ce qui s'était passé.
C'est une manière de aussi finalement retransmettre ce que tu avais pu lire pendant des mois, des années à propos de cette question qui t'a...
Bah c'est vrai, quand on l'entend dans le texte, ce soir on a entendu le passage où nous nous sommes découvertes idiotes économiques, où on a dû réfléchir à des abstraites quantités de pommes et de monnaie pour comprendre ce que c'était une déflation, inflation. Mmh. Bah oui, j'ai un peu raconté certains passages par lesquels j'étais passée moi en faisant mes recherches.
Et c'est d'ailleurs la vraisemblance de cette catastrophe que tu décris au début qui la rend particulièrement glaçante. Ça me fait penser qu'il y a quelques jours, tu t'es amusé d'être cité parmi trois livres de science-fiction,
oui.
De la rentrée par Le Point. Et ça me fait penser justement qu'Alain Damasio, oui. qui est donc auteur de science-fiction, parle pour lui-même, surtout pour son dernier livre, Les Furtifs, hein, d'une science-fiction qui ne reposerait pas sur la prospection à partir des sciences dures, des technologies, mais à partir des sciences sociales. Oui. Est-ce que tu souscris à ça?
Ah si, complètement, ouais. Non mais ça m'a fait rire de voir mon livre dans une sélection de science-fiction. En plus, moi je suis pas je connais pas grand-chose en littérature de science-fiction, mais...
D'ailleurs le livre n'a pas une couverture très science-fictionnelle.
Non. Mais en tout cas, je souscris à cette idée que ça repose pas sur un progrès scientifique, mais ça repose sur... une anticipation, certes, mais plutôt sociale et politique. Ouais.
Et justement, est-ce que, d'une certaine façon, tu parles de progrès, mais est-ce que l'effondrement, tel que tu le décris, n'est pas un progrès pour les sociétés humaines? C'est-à-dire qu'elle leur permet de...
Alors... non, mais c'est vraiment une question que je trouve... moi, j'ai pas la réponse, mais je trouve passionnante, en fait. Parce que je sais que dans les chercheurs sur l'effondrement, il y a aussi on entend aussi la thèse que ce serait bien que l'effondrement arrive le plus vite possible parce que ça casserait, en tout cas, ça empêcherait que s'étendent encore les dégradations, les atteintes qui sont portées au système Terre, en fait. Donc ce serait pour, si on veut, d'un point de vue de la survie de l'espèce humaine, ce serait mieux, par exemple. Et d'espèces animales. Ouais. Mais. Moi, j'ai de la peine quand même avec cette idée. Enfin, je la comprends d'un point de vue intellectuel, mais je trouve que si on se représente justement les souffrances que c'est un effondrement, même strictement économique, en fait, bah, je trouve que c'est même difficile de se réjouir de ça. Quoi.
Oui, bien sûr.
Donc, après, moi, ce que j'ai voulu, c'était sur cette question de progrès qui m'a évidemment travaillé pas mal. Bah, j'ai voulu montrer ce qu'on pouvait perdre. Comme avancer par exemple en médecine, là, il y a un chapitre qui raconte la mort d'un enfant, donc pour moi c'était clairement de montrer ce qu'on avait perdu, parce qu'il meurt d'une appendicite, donc quelque chose qui est très facilement soignable actuellement. Ce qu'on perd dans un cas justement d'effondrement brutal, qu'on n'a pas choisi, qui nous arrive comme ça, dans l'idée de poser quand même la question de qu'est-ce qu'on aimerait en fait conserver, si on peut choisir ce qu'on veut conserver dans la société. Voilà, si maintenant on faisait une transition, mais je pense qu'une des premières choses à faire, pratiquement, ce serait justement de choisir quelles industries sont importantes, dans quel secteur, qu'est-ce qu'on veut. Voilà, la médecine, on n'aimerait pas perdre ça, quoi. Voilà, après, l'industrie des plastiques, il y a énormément de gadgets aussi, donc on peut certainement économiser là-dessus. Puis l'obsolescence programmée aussi, on peut agir dessus, par exemple.
Bien sûr. Tu parles justement de ce qui manquerait dans cette société, de ce qui nous manquerait à nous et de ce qui conduirait à ces dilemmes terribles, ces situations terribles comme cette mort d'une enfant à cause d'une maladie qui serait aujourd'hui tout à fait bénigne. Et je crois que par rapport justement soit aux sciences sociales, soit aux discours qui se construisent en ce moment, notamment le discours collapsologique, comment dire, on voit très bien, et qui tente, si c'est de faire prophétie, tout du moins d'élaborer une sorte de science du futur à partir des données issues de la géologie, de la climatologie, des sciences sociales, la force d'un roman, c'est justement de rendre sensible tout cela, de rendre sensible toutes ces choses qui manquent. Je me souviens quand tu montais à Frost, il y avait un exercice que tu avais fait faire un peu aux auteurs qui était de... Et là, pour qu'on pourra parler un tout petit peu de Frost, pour comprendre de quoi je parle. Qui était de lister tout ce qui nous manquerait après une grande catastrophe. Je me souviens qu'il y avait même de voir en sortant dans la rue les manchettes catastrophistes des journaux, ou de pouvoir s'acheter un yaourt à boire à la mangue. Ce type de choses qui ne paraissent rien, mais qui nous font violence. Ce que tu veux.
Ben, juste si je peux revenir en arrière, rappeler quand je liste ce qui manque, que c'est en fait ce qui arrive à la société, c'est pas le scénario que je souhaite, c'est pas le scénario de rêve, c'est pas une société idéaliste en fait. C'est une société passée par le traumatisme d'un effondrement qui n'est pas du tout voulu, quoi, qui est subi. Donc pour transmettre le message, c'est quand même quelque sorte un roman à thèse, que si on ne fait pas des efforts maintenant, le prix sera beaucoup plus cher. Mais après, comme je dis, si c'est une transition, on peut choisir plus ou moins ce qu'on veut garder, ce qui nous paraît essentiel ou pas. Mais en tous les cas, je pense que c'est des changements, des grands bouleversements qui arrivent. Et puis, j'ai l'impression que oui, il y a une forme de deuil, mais il y a effectivement peut-être le yogourt à la mangue qui peut manquer. Et puis, il ne faut peut-être pas prendre ça à la légère, parce que c'est peut-être un ancrel, mais c'est peut-être plus une question d'habitude brisée, ou de nostalgie, ou de deuil qu'on peut avoir, même pour des phases, à l'échelle individuelle, sur des phases de notre vie antérieure, certaines choses peuvent nous manquer. Pas seulement des personnes peuvent nous manquer, des personnes disparues, mais aussi des choses disparues, puis même des choses matérielles. Et puis, il ne faut peut-être pas non plus avoir honte de ça, parce que les objets, ils ont toujours été importants dans toutes les sociétés. C'est juste nous qui arrivons à un stade où ça devient complètement délirant. Mais de s'attacher à des objets ou de s'attacher à des murs, moi, je trouve qu'il n'y a pas de honte à ça, en fait. Après, c'est seulement comment faire pour qu'on puisse continuer à avoir envie de vivre dans un monde où on n'est pas constamment avec de nouveaux objets. Comment on peut y trouver du sens, du goût, du plaisir, et puis moi je suis sûre qu'on peut en trouver en fait.
Et cette question-là, on aurait tort de penser qu'elle ressort tirée d'une sorte de morale individuelle, puisqu'au fond, les personnages que tu dépeins dans ton livre cherchent des solutions collectives pour faire face aux manques, qui ne sont pas simplement dans leur grotte, seuls à faire le deuil de toutes les compensations que leur offre le capitalisme dans la vie d'avant. Non, ils construisent ensemble une société nouvelle.
Oui, c'est peut-être une des différences avec Frost. Mais c'est vrai qu'on a un peu peut-être juste mieux expliqué ce que c'est que ce Frost. Donc c'était un spectacle qui a été créé à l'ABC, justement, au Temple Allemand en 2014. Thomas, il a participé à cette création en tant qu'auteur. C'était une partie du texte qui était préécrite, qui était dite par un comédien, et puis une partie du texte qui était improvisée chaque soir, enfin improvisée à partir d'un canevas, mais avec deux autrices, moi et puis Julie Gilbert et Thomas par moment, pour l'élaboration de tout ça. Le récit qui était dit par le comédien, c'était plutôt c'était un récit catastrophiste, donc comme quoi ça fait un moment déjà que... Mais c'était plutôt une catastrophe, on ne savait pas vraiment comment elle était arrivée. Et aussi, on voyait personne à part cet individu solitaire. Donc il y avait le côté peut-être plus un peu Robin Sainte-Cuzoé, ou bien plus La Route McCarthy, parce que c'est quand même un roman phare dans le domaine, moi, qui m'a beaucoup influencée. Donc c'était... assez noir, assez poétique, mais voilà, il n'y avait qu'un individu. Et puis, moi, j'avais envie d'essayer avec Après le Monde, montrer les gens qui trouvent du sens, justement, dans une transformation, ou qu'ils appréhendent à plusieurs, quoi. Et puis, d'ailleurs, c'est pas pour rien que ces deux femmes, qui sont dans l'histoire, elles s'écrivent à deux aussi.
Ouais. Ce qui peut nous donner l'occasion de parler de ces chants, sans doute, puisque d'abord ils sont donc écrits par Christelle et Barbara, qui les disent, qui les lisent, qui les chantent, qui les scandent en public, trouvant finalement ou retrouvant un nouvel usage, ou plutôt un ancien usage du poème, qui est celui des aèdes, qui est celui des bardes, qui deviennent ici chez toi bardesses. Et d'une certaine façon, le poème vient faire société à plein d'égards. En tout cas, il accompagne la création de ces nouvelles sociétés. On peut peut-être se demander en quoi.
Bon, juste un truc pour la forme, comment j'ai trouvé ces nous, qui est marrant, c'est qu'en fait, ce qui m'a influencé, c'est plutôt deux textes qui sont écrits au jeu. C'est un texte que vous connaissez peut-être qui s'appelle Autoportrait d'Edouard Levé. C'est une suite, en fait, c'est quelqu'un qui fait un portrait de lui-même avec une suite de phrases au jeu où il décrit tout ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, mais voilà. Et puis un texte qui s'appelle Je mange un œuf de Nicolas Page, qui est aussi une suite d'actions au jeu, une phrase comme ça assez courte, un peu une sorte de texte liste, si on veut. Puis, ouais. En fait, moi, j'ai beaucoup aimé ces deux textes, puis je voulais reprendre ce modèle, mais en passant de Jean-Louis. Et puis, ouais, ce nous, en fait, au début, en tout cas, dans le premier chant, il est décrit assez sur c'est un groupe de personnes qui se décrivent plutôt, s'auto-décrivent plutôt par leurs habitudes de consommation. Ça pourrait presque être une étude de marketing. Et puis en fait, petit à petit, en tout cas dans l'univers fictif, mon souhait c'était que ce nous il s'élargisse. Et puis que de plus en plus de personnes aussi d'origine sociale ou géographique différente s'emparent de ce système-là, parce que ça devient une sorte d'organisme vivant, de composition. Enfin, on parle beaucoup de ces grands récits oraux qui ont existé avec des variations qui étaient appris par cœur. Il y avait aussi un texte de théâtre d'un Portugais qui s'appelle Tiago Rodrigues, où il a publié aussi littérature positive, qui s'appelle Baira, apprendre par cœur. Puis c'est de là que je tirais cette histoire de il suffit que 5 personnes apprennent par cœur, et puis ça, en fait ça immortalise. Ou Shakespeare, ouais. Voilà.
Ok. Oui, donc il y a une sorte de passage de l'individuel, enfin, pour expliquer donc un peu mieux. Donc ce texte écrit par Barbara et Christelle est appris par cœur, il est récité, dit dans des veillées ou dans des lieux différents, puisqu'on suit Christelle et Barbara dans leur périple, dans leur voyage.
On les suit, puis on suit le moment où elles commencent à chanter, ben, on a un petit peu vu là, puis le moment où ça commence à résonner aussi.
Ensuite, le récit s'interrompt d'abord au moment où les feuillets sont détruits quasiment. Et ensuite, on a un saut dans le temps jusqu'en 2049 où on s'aperçoit que malgré la destruction de ces feuillets, les poèmes ont persisté. Ils ont été traduits dans beaucoup de langues, appris récités dans des communautés à travers toute l'Europe, de Hambourg à l'Estonie, la Finlande.
Oui, en tout cas, dans les derniers chapitres, il est chanté en russe et puis c'est une chinoise qu'il connaît par cœur.
Ouais, c'est ça. Et il devient comme un blues, comme un ego spirituel, comme les. Oui. Qui devient la dernière ressource, enfin, en tout cas, le dernier moyen pour des gens qui sont quasiment réduits en esclavage, ou qui le sont même tout à fait. De trouver une forme d'énergie, donc il vient comme ça chanter. On a pu voir ce soir dans la performance que ces textes étaient eux-mêmes chantés. Moi, il y a une question qui me turlupine pas mal, Je sais que, en tout cas, quand cette performance a été pour la première fois créée, tu écrivais encore ce texte. Mm-hmm. Et c'est peut-être assez rare, c'est presque assez expérimental. Comment est-ce que de collaborer avec ces deux magnifiques comédiens sur ce texte à ce moment-là, a agi ton écriture, l'a fait bouger ou t'a rassuré ou t'a fait aller dans, je sais pas, d'autres directions?
C'était une chance immense parce que j'étais justement donc 2017, l'automne 2017, un peu embêtée avec ces chants à me dire que c'était pas crédible que des personnes dans un monde où on ne trouve pas à manger passent leur temps à composer des chants épiques. Et puis, l'histoire dit quand même que ça existait dans toutes sortes de situations, des camps, de détention et tout ça, mais je sais pas, moi ça me posait problème, d'autant plus que le style de ce premier chant que vous avez entendu, il est très ironique. Donc c'est vrai que cette ironie-là, elle me posait une question aussi. Et puis qui sait pour écrire ça comme ça. Puis en fait, donc il y a eu le moment où j'ai donné les chants que j'avais à ces compositrices qui ont fait un magnifique travail. Et puis les entendre justement à ce moment-là où j'ai encore plein de doutes. En fait, je me suis dit, ça le fait, quoi, il n'y a pas de problème. Donc, ça me rassurait, et puis donner, ça les a incarnés, et puis c'était génial à vivre, et puis ça m'a donné plutôt du jus pour continuer, en fait.
Et je crois que c'est dans ce, pas mal, dans ce, puisqu'en fait, la fable de l'effondrement que tu construis, elle commence mal, elle va un petit peu mieux, elle va même très bien. Quand je parlais de progrès des sociétés, c'était qu'au fond, les individus qui sont décrits dans ce premier chant et qui nous ressemblent beaucoup, c'est un de ces individus qui sont finalement privés par l'histoire de la fin du XXe siècle, de perspectives collectives et qui rabattent au fond leur colère et leur volonté d'agir sur une série de petits actes individuels. Ils sont poussés par l'effondrement, à collaborer, à inventer des nouvelles formes de contrat social, des nouvelles formes de vivre ensemble, qui d'ailleurs rappellent des expériences historiques. Et puis, parce qu'on voulait en parler et que le temps passe, et que j'aimerais bien vous donner l'occasion de poser vos questions à l'autrice plutôt que de m'entendre parler, un de ces endroits où ça s'invente, c'est la Chaux-de-Fonds. Puisque, faut le savoir, c'est pas une prophétie, puisque l'affaire du roman, c'est pas la vérité, c'est vraisemblable, c'est de la fiction. Bon, mais tout de même, en 2029-2030, la Chaux-de-Fonds compte 3000 habitants. Et c'est pas simplement dû à la fuite des gens vers Lausanne ou Vienne. C'est parce que la population a été maltraitée et les personnages.
Oui, voilà. Mais ça, c'est pas dans l'univers fictif que j'ai inventé, c'est pas spécifique à la chose.
Non, c'est vraiment mondial, le monde.
Enfin, en tout cas,
le monde entier. Il n'y a pas que la chose de fond. Hein. Et donc, tu donnes à voir finalement à quoi ressemble cette ville. Après, moi, puis je pense que ce serait amusant pour tout le monde que tu nous lises quelques lignes de ça.
Tout à fait, ouais, j'ai préparé le coup parce que. Alors. Alors que la Chaux-de-Fonds n'était plus qu'à 2 km et que, suivant un coup d'avant la grande route, ils avaient débouché dans un pâturage entre le Raymond et le Mont-Sagne, leur apparut un large morceau de la ville. Ils l'avaient déjà aperçu de tête de rang. Mais elle était à présent suffisamment proche pour dévoiler son caractère. Son plan rectiligne était encore visible, mais l'on voyait beaucoup de bâtiments à demi démolis, servant à la récupération de tuiles, poutres, moellons et planchers. D'autres étaient reliés par des passerelles, tunnels et passages couverts, qui permettaient de rejoindre les différentes ailes d'habitation communes sans s'exposer aux intempéries. Olivier était tout excité. Et si l'absence de pâle au sommet de la cheminée de Cridor lui avait causé une légère déception, il prétendait distinguer la tour Espace-Cité, qui, d'après ce qu'ils avaient entendu, servait essentiellement de serre. aussi bien que les usines dont on leur avait parlé au Pucherou, une conserverie, une fabrique de chaussures et une autre de couteaux, où l'on ferraillait l'énorme stock d'acier démantelé dans les anciens bureaux ou espaces commerciaux. Certaines industries de réseau avaient également repris de l'essor. Dans la ville qui s'étendait devant eux, un service mutualisé, peu mécanisé mais robuste, assurait la distribution bijournalière d'eau potable, ainsi que la récupération des eaux usées et des matières issues des toilettes sèches. Derrière ces blocs, dit Olivier à sa fille en pointant le quartier des Arêtes, le terrain descend vers la combe du Valenfron. Là en bas, ils ont des bassins de phytofiltration. L'eau est nettoyée par les plantes. Est-ce qu'à la Chaux-de-Fonds, ils ont l'eau courante? C'était une autre expression que la fillette avait retenue au cours des enseignements prodigués par ses parents. La première fois qu'elle l'avait entendue, elle s'était tordue de rire, imaginant une sorte de jerrycan montée sur pattes courant dans tous les sens. Non, ils n'ont pas l'eau courante. Faire couler des robinets, ça demandait des systèmes d'adduction et d'assainissement, des compresseurs, des pompes, des alternateurs, des trucs automatisés. Qui sait, peut-être qu'on arrivera bientôt à la rétablir par gravité, mais en attendant, ici, ils se sont organisés. Il y a 6 grands ménages de 500 personnes à la Chaux-de-Fonds. Eh bien, chaque quartier reçoit de l'eau propre pour ses cuisines et ses bains publics, amenés par charrette-citerne. Ils se sont arrangés entre tous les grands ménages pour que chacun d'eux participe à ce service. Tenant toujours la main de son père, Yana observait les plots assemblés des maisons, la géométrie orangée des toits et la verticalité blanche des tours de l'Est. Impatiente de pénétrer en cette ville dont ses parents parlaient tant, et qui lui faisait maintenant qu'elle la voyait lovée dans son vallon, l'effet d'une coulée de matériaux à jamais inassimilables aux prés, champs et bois alentours, alors même qu'elle en épousait parfaitement les lignes matrices. Comment ils s'appellent, les gens chez qui on va? À la chanson, les meupeux. Pour de vrai? Les yeux de Yana pétillaient, espiègles et incrédules. Je te jure, et ceux qu'on connaît, maman et moi, ils sont de la communauté des Mélèzes. Alors, la fillette pouffait, on va chez les meuqueux des Mélèzes? Exactement. Éclatant de rire, il se remit en marche.
Donc c'est saisissant de voir ce portrait de ville à la fois étranger et très proche. On connaît les noms, on connaît les endroits, et c'est une idée. C'est ce qui est assez saisissant dans ton livre, je dirais particulièrement pour quelqu'un comme moi et comme vous, des lecteurs et lectrices qui vivent dans ces endroits et pour qui ce territoire est un territoire intime, c'est de voir par exemple un val de rue sans voiture, avec des charrettes. Bon, c'est peut-être pas si vieux que ça non plus, il y en a voir il y a quelques dizaines d'années. Mais aussi, on voit, je pense, on passe un bac à Saint-Ursanne, on voit une vue des Alpes un peu particulière. Bien sûr, un livre, il est destiné à être lu par un public beaucoup plus large. Et il se trouve qu'ici, on connaît ces lieux, que toi, tu les connais très bien. Et en quoi ce choix, parce que tu vis à Valangin, en quoi, tu es originaire de la région de Chassoise, en quoi est-ce que faire le choix de ces lieux-là qui sont proches de toi a été important?
C'était important au moment où j'ai commencé à concevoir ce monde d'après, parce que ça défiait mon imagination, et puis en fait ça m'aidait à lui donner de la réalité, de me dire en quoi ça pourrait impacter mon monde proche, autour de ma maison, autour de ma famille, des gens que je connais. Même si actuellement on est dans une société mondialisée, puis que quelque chose qui peut se passer effectivement aux États-Unis peut m'impacter, mais que j'utilise tous les jours des objets, donc j'ai pas vu comment ils étaient fabriqués. Mais en tout cas, ça m'a aidé à ce moment-là. Puis maintenant, pour la lecture, bah évidemment, voilà, là ici, c'était l'occasion de lire ce passage parce qu'il a une résonance particulière, mais après, je crois pas que ce soit tellement essentiel que je le connaisse ou pas. Finalement, ce qui est important pour moi, c'est de faire comprendre qu'il y a on est passé à une échelle de la marche à pied, puis que c'est tout local, puis que c'est des petits lieux dits qui sont importants, comme le Cucherou qui est minuscule. Et puis, en fait, pour moi, c'était une poésie aussi de certains, non ? Justement, il y a un moment, ils vont en Belgique, et puis ça s'appelle Bastogne, la ville où ils vont. Puis moi, je suis jamais allée à Bastogne, mais en voyant ça sur la carte, je trouvais génial quand même. Et ils s'appellent les Bastogneurs. Ouais.
Tu connais Mulhouse, alors ? Parce qu'il y a aussi
Mulhouse. Je suis allée à Mulhouse, ouais, ouais. Mais là aussi, j'ai pas de relation particulière à Mulhouse. C'est juste que je me disais, bon, ils vont vers le nord,
par où ils passent. Ouais. Oui, il y a une sorte de poésie presque géopolitique comme ça, parce qu'il y a des. Tu parles d'un monde d'après la voiture, d'un monde de la marche à pied, c'est aussi un monde d'après les grands États. Mm-hmm. Et donc, chaque petite communauté, par-ci, par-là, s'invente une manière de vivre.
Une
identité.
Une appartenance.
Voilà. Ouais. Autant on a une sorte de modèle. Crypto-libertaire à la Chaux-de-Fonds, ce qui n'est pas tout à fait étonnant pour l'endroit d'ailleurs. Mais on a une forme de capitalisme qui renaît de manière assez flamboyante à Mulhouse. Voilà,
on a énormément de systèmes. Il y a une phrase, j'ai beaucoup hésité, je la garde pas, à propos du capitalisme. C'est un champ où ils disent oui, nos moyens de production ils sont mutualisés. Mais on laisse fonctionner un peu de capitalisme local pour reconstruire. Et puis voilà, je me disais, est-ce qu'un peu de capitalisme local, c'est déjà le verre dans la pomme, puis c'est fatal que ça arrive au stade où on est maintenant, ou est-ce que en soi, c'est pas le démon, le capitalisme, mais enfin, ça dépend encore ce qu'on appelle capitalisme, mais l'idée que certaines machines de chantier puissent appartenir à un privé, à un ensemble de privés plutôt que à la communauté. Moi je disais, c'est peut-être quand même plutôt la démesure le problème en fait. C'est à part, c'est en fait on peut retrouver exactement le moment où politiquement il y a eu des nouvelles lois qui sont apparues, début des années 80, il y a eu vraiment beaucoup d'éléments qui ont été privatisés et tout ça. Et puis, que ça vient pas de rien, c'est un moment des choix politiques délibérés qui ont fait que ce capitalisme est démesuré aujourd'hui, mais que c'est pas en soi, que je me suis dit, on pourrait quand même le tenir, avoir des garde-fous, puis pas que ça déborde complètement, donc j'ai gardé la phrase.
Oui, puisque tu nommes capitalisme n'est pas nécessairement présent dans l'ensemble des sociétés que tu décris, on a face à nous un monde où les alternatives sont d'un seul coup devenues possibles, puisque tu parles des politiques qui ont commencé à être mise en place dans les années 80, la phrase de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a aucune alternative possible au capitalisme, c'est la doctrine de la fin de l'histoire de Fukuyama, où l'humanité aurait expérimenté tous les systèmes possibles et serait arrivée au bout du bout au système le moins pire qui soit, c'est-à-dire le capitalisme de préférence de modèle néolibéral. Ce que tu montres grâce à cette catastrophe, c'est que ce n'est pas le cas. Tu conjures la peur de cet effondrement en écrivant, mais tu conjures aussi cette fin d'histoire. Et bon, je te l'ai déjà lu, je crois, mais il y a un critique qui s'appelle Jean-Paul Angélibert qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Fabuler la fin du monde, et qui, je pense que d'ailleurs tu vas le rencontrer, je crois, au Centre Pompidou bientôt, et je crois qu'il fera tout à fait rentrer ton texte dans ce cadre critique, qui nomme Apocalypse. Apocalyptisme critique. Il est décrit ainsi, ce sont des fables de la fin du monde qui, à travers leur scénario apocalyptique, mettent en scène l'exigence de cultiver notre renseignement et la promesse d'un autre monde. Paradoxalement, ces fictions constituent aussi des instruments de lutte contre l'apocalypse. Elles restaurent une perspective politique dans le climat de fin de l'histoire qui étouffe toute action depuis des décennies. Alors, si je peux vous inviter à cela, même si c'est que ma perspective de lecteur, c'est de ne pas lire ce texte comme un récit anxiogène, mais plutôt comme une invitation à sortir du présentisme et à relancer l'histoire, parce que elle n'est pas finie. Et voilà, je vous laisse la place pour toutes les questions que vous souhaiteriez posée, au moins jusqu'au, plus jusqu'au dernier train. Il vous suffira de lever la main. Oui.
Est-ce que vous avez été inspiré par Fahrenheit 411?
Par
Fahrenheit 411.
Non.
Parce qu'il y a des éléments comme ça, le fait d'apprendre par cœur un texte qui se retrouve dans ce film et qui est très intéressant en fait. Parce que, bah justement, vous l'avez développé dans votre histoire, sans le dire, c'est quelque chose de fascinant.
Eh bien, je revois, ça dit ça. Après, je dirais, il y a l'aspiration consciente et inconsciente. Parfois, je sais très bien que je fais référence à quelque chose, mais il y a aussi mille choses qui viennent que je n'ai pas inventées, mais qui viennent des films que j'ai vus et puis qui sont là quelque part, quoi. Mm-hmm.
C'était quoi le moteur émotionnel ou sensitif sur lequel tu es parti pour écrire ça?
J'avais lu un livre qui a fait un gros chemin là, Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne et Raphaël.
Comment tout va s'effondrer?
Hein?
C'est pas comment tout va s'effondrer.
C'est comment tout va s'effondrer, c'est pas ce que j'ai dit?
Tout peut,
ah non, pardon, comment tout peut s'effondrer, ouais. Ou aux éditions du Seuil, qui est parti en 2015, puis c'était... Là, c'est vrai qu'on a parlé de ce projet Frost, qui était déjà un projet catastrophiste en 2014, mais là, tout à coup, c'était passé de l'intuition à vraiment toutes les explications comme scientifique, assez, je trouvais assez irréfutable, du pourquoi, en tout cas, ça n'allait pas pouvoir continuer comme maintenant. Et puis dans un délai assez proche, donc ça c'était un très gros choc, cette lecture. Donc je pense que c'est ça qui m'a poussé.
Oui, je reprends une phrase qui m'a particulièrement qui m'a marqué. Nous ne croyons pas ce que nous savons. Et je voulais savoir pour vous, le fait d'écrire le livre, le fait d'explorer par la littérature, est-ce que ça vous permet de croire ce que vous savez? Ou est-ce que ça vous permet en tout cas un effet cathartique, ou ça vous permet d'évacuer la peur et éventuellement, par la diffusion du livre, d'aider l'humanité angoissée que nous sommes en train de devenir? Est-ce qu'il y a cette possibilité, en tout cas, en passant à l'invention d'un monde meilleur, peut-être?
Bah, une première chose que je dois dire, c'est que cette phrase n'est pas de moi. C'est une phrase de... Enfin, moi, je l'ai mise au nous, mais l'idée de ne pas croire ce qu'on sait, c'est un philosophe français qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, qui a écrit un livre qui est aussi une sorte de référence hein, pour ces chercheurs en collapsologie ou chercheurs de l'effondrement. C'est le catastrophisme éclairé. Et puis... Ouais, c'est une phrase qui m'a vraiment sauté aux yeux. Je trouvais qu'elle est tellement bien formulée. Moi, pour répondre à votre question, oui, en tout cas, moi, ça m'a, le fait de me représenter justement des scènes avec des personnages et puis qui se passaient proche de chez moi, qui étaient dans un monde d'après, ça m'a aidé. D'ailleurs, jeudi soir, après la représentation, il y a eu des activistes pour le climat qui sont venus parler, organiser une rencontre aussi, deux jeunes femmes. Une a dit ça, que le fait de ne pas se dire que c'est la fin, l'effondrement, mais de se projeter dans l'après, comment ce sera, qu'est-ce que je ferai, ça continue, on va continuer à vivre, à se débrouiller d'une manière ou d'une autre, que ça l'aidait. Puis moi je pense que c'est quand même le geste premier aussi de ce livre. Et oui, ça m'a aidé, et puis j'espère que ça peut créer des images dans la tête des lecteurs et des lectrices, puis que ça peut aider aussi. Après, moi, même, j'ai passé 4-5 ans sur ce livre, mais j'ai quand même des fois des moments de panique, c'est pas miraculeux non plus. C'est quand même, je suis pas du tout au même endroit que j'ai commencé.
J'ai pu lire le livre, et moi ce qui m'a frappé, et puis il m'a laissé un très beau sentiment, c'est qu'il y a des gens qui continuent de parler et de chanter tout au jusqu'à la fin, même si ça se passe dans un camp de concentration, tout à la fin, les gens chantent et puis il y a d'autres gens qui sont dans ce camp de concentration qui écoutent et qui chantent avec. Et alors c'est quelque chose d'horrible quand on parle de situation. Mais moi, ce qui me semble, c'est un bouquin, un livre qui parle aussi de la force et de l'importance de la littérature. Je trouve. Le fait que la littérature, par la littérature, moi, ça me permet d'aller plus loin. Ça me permet d'aller plus loin que de la crainte. Tout va péter. Moi, j'ai presque envie maintenant que ça pète, effectivement. Je ne veux pas que ça fasse trop mal. Mais il y a tellement de choses que je déteste dans le monde, dans lequel je vis maintenant, à côté d'un tas de choses que je trouve magnifiques. Là, je parle de culture comme ça, mais moi, il n'y a pas grand. Si le monde pète maintenant, il n'y a pas grand chose que je regrette. Moi, je suis très touché par tout ce qui est l'université, c'est même ça qui me fait le plus mal, très personnel.
Qu'est-ce qui fait le plus mal, pardon?
C'est la disparition des espèces. L'homme en fait partie, mais c'est aussi tous ceux qui n'y peuvent rien, quoi, qui n'y sont pour rien. Les oiseaux, les grenouilles, toutes les fleurs. Quoi. Non, mais moi, là, c'est quelque chose qui me mine très profondément. Et tout ce qui empêche ça, finalement,
de nouveau, moi, je suis moi-même partagée quand tu dis j'aurais presque envie que ça pète parce que, en fait, oui, le côté jubilatoire, c'est que ça peut redistribuer les cartes politiques et puis créer un autre monde, que ça peut être vu comme une opportunité. Et puis moi, je trouve que c'est excitant aussi et que ça peut donner de l'espoir aussi. Après, comme tu dis, j'aimerais pas que ça fasse trop mal, c'est qu'est-ce que ça fait sauter au passage, et puis le monde d'après, quelles sont les dégradations exactement? Parce que j'ai l'impression que la survie de l'espèce humaine, c'est un enjeu, mais c'est pas seulement ça, c'est dans quelles conditions? Est-ce que les conditions, elles permettent encore justement d'avoir des pactes sociaux, et puis des idées d'égalité, et puis une littérature? Ou est-ce qu'on est tout d'un coup dans un monde tellement dévasté que c'est plus possible? Puis là, je trouve que ça remet quand même en question l'idée est-ce que c'est souhaitable ou pas dans une survie, peut-être.
Écoutez, ce que je viens de dire, c'est plus facile de le dire quand on a 71 ans que quand on a 20. Donc, pas la même chose.
Ça pose aussi la question de savoir si les expériences qu'on fait peuvent servir à changer les choses. Ce qui, je trouve, en tout cas personnellement, actuellement, je trouve que souvent, je suis étonnée de voir que l'expérience ne sert pas à grand-chose, qu'on reproduit les mêmes erreurs, alors qu'on sait que tel type d'action va entraîner tel type de conséquences. Et je veux dire, le plus jamais ça, on le voit tous les jours qui se reproduit. Et donc du coup, créer une nouvelle société en se disant on ne va pas refaire les mêmes erreurs qui nous ont amenés à l'effondrement, il faut être très optimiste. Hein.
Bah, c'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas beaucoup au départ des humains sur Mars, par exemple, parce que je dis qu'on va reproduire. Après, j'ai quand même l'impression que c'est la taille de nos outils actuels. On n'a qu'à penser par exemple à l'extractivisme, les machines qu'on a pour couper du bois qui sont tellement énormes. Tout est tellement énorme qu'en fait les conséquences elles peuvent que être énormes. Je crois quand même que le fait de raser ça, en fait, en tout cas, parce qu'à un moment physiquement il n'y aura plus le flux d'énergie qu'on a maintenant. Donc ça peut que quand même diminuer l'impact de nos activités. Et diminuer le volume de nos activités. Après, je ne dis pas qu'on va être meilleur parce que ça s'est effondré. C'est, je pense que ce n'est pas ça. C'est
le problème, c'est que si on attend d'aller... Enfin, ce qui se passe en ce moment, c'est que tout le monde essaie de continuer comme si rien n'était. On cherche toujours d'autres matières fossiles, le schiste, par exemple, typique. qui n'était pas prévu il y a 10 ans. Mais plus on en consomme, plus la biosphère se fourlève, quoi.
Oui, bien sûr.
Donc on peut imaginer que c'est bien qu'un effondrement ait lieu maintenant pour sauver la biosphère. Mais à ce moment-là, ben, on sauve la biosphère. On ne sauve pas l'humanité. Ça, il faut le savoir. Hein. Mais si on veut sauver un peu l'humanité, ce n'est pas la biosphère qu'il faut sauver, à mon avis. Il ne faut pas vouloir sauver la biosphère, a priori. Il faut vouloir sauver l'humanité. C'est-à-dire qu'il faut se mettre avant.
Se mettre ?
Avant la biosphère. Il faut que l'humain se mette avant la biosphère. À mon avis, hein, parce que... bon, moi j'hésite personnellement, mais comme monsieur qui a 71 ans, moi j'ai 66 ans, donc j'ai vécu avant, youpi, il n'y a pas de problème. Je peux tout à fait imaginer que l'humanité disparaît, ça ne me dérange pas. La biosphère se portera très bien. Mais non, j'ai mais pas d'enfant,
d'une part, je pense que si on se dit qu'il faudrait faire passer, si on fait le choix dans ta logique de faire passer l'humain d'abord, et d'essayer de sauver l'humain, si l'idée c'est de sauver le mode de vie de l'humain, le mode de vie actuel,
de toute façon, le mode de vie actuel est condamné,
après,
c'est sûr.
Après nous,
il y a un peu de bio dans l'humain, quand même. Hein.
Mais il y a quand même des sociétés qui ont tenu des dizaines de milliers d'années, notamment des sociétés aborigènes, sans altérer leur
mode. Il y aura dans des millions d'années, il y aura encore des humains sur la planète. Ça, c'est, j'en suis convaincu.
Pas sûr.
J'en suis convaincu. Non, j'en suis convaincu. Mais
peut-être une dernière question.
Une dernière.
J'ai une question peut-être un peu bizarre, mais dans cette perspective aussi, est-ce que ça vous est venu à l'idée de en fait raconter peut-être cette histoire du point de vue d'un animal, d'une bactérie qui aurait survécu dans un monde où en fait ces humains n'existeraient plus du tout, ou l'humain était vraiment toujours...
Non, pas du tout. Pas du tout venu à l'idée. Enfin, c'est pas vrai parce qu'au début j'ai fait quand même des grands schémas d'arbres. Alors qu'est-ce qui se passe si alors je me demande si j'ai pas. Non, j'ai pas sur moi. Mais alors l'être humain disparaît, puis les bactéries survivent. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui m'intéressait.
Ouais.
Parce que moi, j'ai parlé tout à l'heure de qu'est-ce qui émotionnellement m'a mise en marche en écriture, cette lecture de comment tout peut s'effondrer. Pour moi, c'est peut-être ok, c'est un point de vue humain, puis c'est centré sur l'humain, mais moi, ce qui m'a fait mal, c'était les souffrances causées à l'humain d'abord. Je suis pas du tout indifférente aux souffrances animales, hein, c'est pas ce que je dis. Ouais. Pour moi, c'est vital d'aller me promener en forêt, puis j'aimerais que les arbres ils m'accompagnent. Je ne peux pas imaginer ma vie sans les arbres. Mais c'est quand même d'abord ce sentiment que ça va impacter nos petits-enfants, nos enfants, et puis nous, quoi. C'est égoïste, mais ouais, c'est comme ça qui m'a d'abord mis dans l'effroi. C'était de dire, moi, de mon vivant, je vais connaître vraiment des grands bouleversements. Puis ça se pourrait que ça ne se passe pas calmement. Puis ça, c'était un truc...
Mais quant à faire de la science-fiction, pourquoi ne pourriez-vous pas imaginer une solution qui ne tient pas du tout à un effondrement, c'est-à-dire une évolution, avec évidemment quelques problèmes, on est d'accord, ça certainement, mais pas quelque chose qui soit vraiment du type effondrement. Parce que l'effondrement, c'est vraiment solide. Hein. Et puis encore, suivant les jours, si je suis optimiste ou pessimiste, ben, je peux être voir les choses de manière pire que vous, peut-être. Par contre, dans les jours d'optimisme, ben, j'essaye quand même de voir est-ce qu'il y a d'autres solutions. Est-ce que vous avez pensé que ce serait éventuellement possible?
C'est vraiment une question de stratégie. De création. En fait, il y a des livres qui existent qui racontent des transitions heureuses. Par exemple, il y en a un que je trouve génial, d'une certaine Marie-Monique Robin. Et, je ne sais plus comment ça s'appelle, Sacrée Croissance. Mm-hmm. Et puis, en fait, elle reprend toute l'histoire depuis 2014, comme si un rapport du GIEC avait sauvé la face du monde et que tout à coup la classe politique s'était mise en marche pour voilà, prendre des mesures. Donc, avait pris et pris des mesures en conséquence. Donc moi, je trouve que c'est une super stratégie. Personnellement, je n'ai pas écrit ça. Je pense qu'il y a 1000 livres qui peuvent coexister, comme il y a 1000 individus qui... 9000
individus. C'est une suggestion de manière de penser.
Je peux vous dire pourquoi j'ai fait ce choix. C'est parce que, d'une part, je pense que la peur, ça peut être une émotion pas seulement négative. Et puis aussi parce que je pense que de se projeter justement la menace, se projeter dans l'après d'un vrai cataclysme, paradoxalement, ça peut mettre en marche des actions qui peuvent les éviter. En tout cas, je pense que de pas du tout d'ignorer cette possibilité, c'est pas ça qui peut vous aider.
Non, mais moi je pense à des gens comme Pierre Rabhi, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, qui en fait sa fille a fait la fonte des colibris. Et donc, c'est un exemple.
Ils vont que je fais un t-shirt colibri.
qui pourrait aussi inspirer. Et c'est un peu ça que.
Oui, non, mais moi, j'aime bien les familles. Puis, encore une fois, je pense qu'il y a plein de livres différents qui peuvent coexister. Moi, j'ai fait le choix.
Non, mais c'est, vous avez raison. Hein. Ça veut dire que vous n'êtes pas là. C'est le moment
de faire ce choix-là.
C'est certain. Et puis on y pense aussi, hein, parce qu'on n'était pas fait en face, avec notre panel.
Ben, je vous remercie tous pour vos questions, je te remercie beaucoup, Antoinette. Et bonne soirée.